se trouve coincé. Son travail à lui, déclare-t-il le procès de Jérusalem, c'était l'émigration forcée. Il était spécialiste de l'émigration forcée. Et il y avait fort bien réussi en Autriche. Seulement voilà, avec la guerre, qu'est-ce qu'il veut encore des Juifs? Où vais-je trouver des territoires? Mais il cherche encore désespérément, et je vous rappelle, je vous l'ai dit, il y a eu 3 projets d'Eichmann pour constituer des États juifs, un en Pologne, qui s'est heurté au refus du gouverneur général Franck, qui était, on trouve toujours encore plus monstre que soi, un à Madagascar, et un en Afrique aussi, je ne sais plus où d'ailleurs, et tout était prévu dans le détail. Il a fait travailler tout un bureau d'experts là-dessus, il y avait une banque juive, il y avait un haut commissaire allemand pour les affaires générales de l'État juif de Madagascar, mais ils avaient un gouvernement autonome, il y avait une banque juive et des stocks juifs pour faciliter le commerce de cet État juif de Madagascar. Tout était prévu dans les moindres détails. Officiellement, et j'en finirai là-dessus, l'émigration des juifs n'a été stoppée par les nazis qu'en 1941. Ça, on ne le sait pas. Il y a d'ailleurs des juifs qui ont encore pu échapper, ça Klepper le raconte de ses propres amis, en Chine, dans la République dominicaine, enfin par des circuits absolument invraisemblables. Mais enfin, à partir de 38-39, le rideau est tiré, la trappe s'est refermée sur les juifs allemands, moins sur les juifs autrichiens, j'allais dire grâce aux ailes d'Eichmann, ça c'est un aspect de son rôle qu'on connaît moins. Il s'est rattrapé d'ailleurs par la suite, comme vous le savez. Et les exécutions, enfin le génocide massif, ne commence qu'en 1941 avec l'invasion de l'Union soviétique et ce fameux décret pour l'exécution sommaire des commissaires politiques communistes. Mais en même temps, on en a profité pour l'élargir aux Juifs. Et ce n'est que le 37, nos ennemis disent toujours qu'il n'y a pas de preuve du génocide des Juifs. Ben si, il y en a. Il y en a de très évidentes. Il y a une lettre officielle de Göring qui élargit la mission de Heydrich et qui dit « Jusqu'à présent, vous aviez mission de régler le problème juif par l'émigration. Vos pouvoirs, à partir d'aujourd'hui, sont élargis pour le régler définitivement. » C'est de là que vient le mot « solution finale ». Cette lettre date du 31/7/1941. Et Heydrich en fait état dans la fameuse conférence de Wannsee qui a lieu le 20 janvier 1941. La suite, vous la connaissez comme moi, il n'y avait plus rien à faire. Moi, je ne crois pas beaucoup aux révoltes en gants blancs, comme disait Pierre Vidal-Naquet, il était trop tard. Mais à qui la faute? Ça, c'est une vaine question. Les seules questions que je me suis permis de vous poser... c'est premièrement pourquoi les juifs étaient-ils si peu préparés à une analyse politique? Je ne parle même pas de la solution finale, mais sur la nature du nazisme, sur la nature du fascisme, parce qu'après tout, il y avait déjà un fascisme en Italie. Et mon point de vue, c'est qu'on n'a pas le droit de dissocier l'éducation culturelle juive de l'éducation politique générale. C'est une profonde erreur, je crois. La deuxième question que je voulais vous soumettre, c'est le problème, le rôle des communautés et des associations juives. Peut-on, sous une forme quelconque, coopérer avec des ennemis? Bien entendu, vous me direz qu'on a réussi à sauver des gens, mais je vous demande à quel prix. Pour ma part, je vous ai donné ma réponse, ça n'est que la mienne aussi. C'est pour ça que je conclurai, je ne crois pas que notre rôle soit de condamner. Après tout, nous n'aurions peut-être pas fait mieux. Notre rôle est d'apprendre, d'analyser. Et c'est tout ce que je voulais faire ce soir avec vous. En disant qu'il prend simplement des formes nouvelles, mais il pérennise un courant très ancien qui remonte en fait au 18-19e siècle, et elle me dit, mais ne pensez-vous pas que ces gens ont raison de parler d'un déclin de l'Occident? j'ai dit Oswald Spengler en parlait dès le lendemain de la guerre 14-18. C'est effectivement le choix, quand on se sent entre deux civilisations, une en déclin et une à naître, qu'il se dessine un certain désarroi, qui est d'ailleurs dû aussi aux crises économiques, je m'empresse de le dire, je ne suis pas idéaliste à ce point, mais le choix est toujours à ce moment-là entre deux attitudes. Et c'est pourquoi je disais, en examinant ma propre éducation première, la guerre et l'occupation sont chargées de m'éduquer, hélas, nous n'avons pas été formés à analyser les courants. Et quand on ne sait pas les analyser, on ne peut pas y répondre. Alors, vous avez raison, c'était général. Il y a cependant des pays qui ont une tradition historique différente. La chance de la France, même si ce n'est pas parfait, c'est d'avoir une révolution bourgeoise et laïque et d'avoir introduit un minimum, je dis un minimum, toutes choses sont relatives, de rationalisme. L'Allemagne n'a pas eu cette chance puisque la révolution bourgeoise de 1848... qui a été la seule, je ne compte pas celle de 18, parce qu'elle a été le fait d'une poignée de gens, elle a toujours été ressentie comme un produit d'exportation, d'importation. Mais celle de 1848, qui a été une révolution bourgeoise allemande, a échoué. Et c'est pourquoi le problème a été si aigu en Allemagne. Même en Italie, où il y a eu bien avant Hitler, Mussolini, il s'en est d'ailleurs inspiré, ça n'a jamais pris, sauf sous la pression allemande, les formes aussi exacerbées qu'en Allemagne.
Je voudrais ajouter que je suis d'accord avec ce que dit Rita, mais je voudrais précisément ajouter que pour les raisons particulières qu'elle vient de donner, la forme exaspérée allemande a été une forme qui relève certes d'un côté d'une manifestation générale du fascisme, mais relève aussi de quelque chose de tout à fait singulier, qui est le racisme à rien, qui était plus qu'un simple thème de propagande, qui, comme je l'ai dit au début de mon exposé, a été une tentative idéologique, gnostique, totalitaire pour assurer quelque chose que ce dont Mussolini, le fascisme italien, n'a même pas rêvé, du rêve de domination mondiale, d'un encadrement global de l'humanité, de la création d'un homme nouveau. De la race.
Oui, mais l'idée vient d'un Français Gobineau et d'un Anglais.
Ça a trouvé son terrain naturel en Allemagne.
Monsieur.
Ce n'est pas simplement un phénomène constitutionnel, ça va bien au-delà. Il y a cette mystique de l'homme nouveau, il y a ces phénomènes mystiques, il y a leur liaison avec des moines tibétains adorateurs d'Asmatista et toutes ces choses-là.
Ce qu'on retrouve aujourd'hui.
Ah, il y a une colonie actuelle de nouveau de moines tibétains, secrétaire d'Asvatistan à Vienne.
Enfin, l'un n'empêche pas l'autre, parce que toutes ces politiques sont irrationnelles.
C'est-à-dire,
dans les mémoires de Rochny, je ne sais pas comment il s'appelle, Hitler dit à un moment donné, celui qui conçoit le nazisme comme un phénomène politique n'y a rien compris. Est-ce un mot rapporté? N'est-il pas historique? Je ne sais pas.
Non, je crois qu'il voulait dire simplement politique au sens rationnel, justement, du terme. Oui. Lui a toujours parlé de conception globale ou totalisante de l'homme. Mais c'est une mystique politique. Vous savez, tout est politique, y compris la mystique.
Ça, c'est l'expression gnostique employée au moins à 3 ou 4 reprises dans l'eau. Et je crois qu'il a raison. Là, je ne sais pas d'où tu la sors et pourquoi ça s'était imposé à toi. Mais il y a des trucs vraiment qui n'ont rien à voir avec l'aspect politique du nazisme.
Je crois, le fait, la spécificité, c'est ce qui singularise tout de même le fascisme, le nazisme, du fascisme en général dont il y a une branche, c'est précisément ce qui nous touche ce soir, c'est-à-dire l'extermination totale du peuple juif. Certes, et je crois qu'on a bien fait, Rita a très bien fait, d'avoir attiré notre attention sur la politique de l'émigration d'Eichmann, sur cette politique retorse, tortueuse. Mais ce n'est pas par hasard si Hitler emploie le mot « solution finale ». L'immigration elle-même...
En 1941. Jamais avant.
Je me rappelle, je l'ai cité hier, ça m'avait d'ailleurs impressionné, ce fameux discours au Reichstag, le 30 janvier 1939, où il l'a dit, si le peuple juif déclenche la guerre, moi qu'on accuse d'être un mauvais prophète, eh bien je vous jure au bon peuple allemand d'être un bon prophète, il n'y aura pas un seul juif qui survivra à la guerre. Or, pour Hitler, il l'a annoncé clairement dans Mein Kampf, la solution par excellence du conflit, c'est la guerre. Et cette politique pragmatique qu'il a pratiquée, à merveille, qu'il a pu pratiquer grâce au recul, à la démobilisation des démocraties, n'était qu'une phase préparatoire qui devait mettre l'Allemagne dans la meilleure condition pour faire la guerre. Et la guerre, pour lui, la solution, toujours, c'était l'extermination des Juifs. C'est vrai,
compliqué, parce que là, on s'en sort à bon compte, tout le monde a bonne conscience, ça dédouane facilement les autres États. Moi, je suis pas d'accord, parce que je persiste à dire, Hitler voulait l'élimination des Juifs, il voulait un empire Judenrein. Mais il faut pas jouer sur les mots. Nous, on parle d'élimination physique parce que, bien, nous l'avons vécu, mais lui pensait à l'élimination, c'est-à-dire hors de la portée des grands seigneurs ariens, c'est-à-dire créer des réserves, par exemple. Il y a plusieurs projets en ce sens, et si les plus grands dignitaires chargés des questions juives se sont penchés sur ces projets, c'est que ça a été par étapes. Quand on parle de l'Holocauste tout de suite, moi je dis qu'on dédouane...
Non, c'est une solution progressive. C'est la solution finale, mais on arrive progressivement.
On admet que le racisme, à ce moment-là, l'antisémitisme à cette époque-là, est à peu près comme les autres antisémitismes. C'est-à-dire qu'on offre une autre possibilité aux Juifs que de mourir. Donc, si jamais... Vous ne partez pas, vous n'émigrez pas, vous mourrez. Sous l'Inquisition, ça s'est traduit, si vous ne vous convertissez
pas, vous mourrez.
Mais hier, aux discussions qu'il y a eu, M. Niedermayer a bien mis en évidence qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. D'ailleurs, les Ariens sont remontés jusqu'à la deuxième génération. Si on avait un grand-père ou une grand-mère, oui, à ce moment-là, on mourrait. Donc c'était vraiment... spécifique un antisémitisme tout à fait nouveau et tout à fait particulier qui naissait à ce moment-là. On en voulait vraiment à la race juive, à l'ethnie juive, à la culture juive. On voulait son élimination.
C'est pas si simple.
Enfin, je sais bien, puisque vous avez mis en évidence d'autres choses.
Moi, je m'élève contre les schématisations dans notre intérêt de juif. Parce que je vous dis encore une fois... on facilite la tâche à nos pires ennemis. Hein. C'est toujours le noir-blanc, et comme ça, on est dans le bon camp, on est dans le mauvais. Comme il y avait les méchants nazis, les bons français, les braves anglais, les super américains, sont lavés. Premièrement, vous avez dit une chose très juste. Au Moyen-Âge déjà, ce choix existait. J'ai fait par intérêt personnel l'histoire de la communauté juive de Nuremberg, puisque c'est ma ville d'origine. Hein. Ça n'a pas arrêté. J'ai découvert, par exemple, qu'un des hommes qui passe pour un des plus grands humanistes allemands, dont nos livres scolaires, ici même en France, sont pleins, M. Pirkheimer, qu'on trouve à la page tant du Baudouin Hissler, enfin des manuels de nos lycées, a participé à la vente des biens juifs lors des pogroms du XVIe siècle. C'était un Soustreicher de l'époque, du moins pour les biens juifs. Bon, c'est des choses qu'on ne sait plus. Le choix dont vous parlez sous la période nazie, je me suis évertuée à bien vous le situer chronologiquement, il ne se pose qu'à partir de 1939. La trappe se ferme, et d'ailleurs Heydrich le dit lui-même dans la fameuse conférence de Wannsee, la guerre va nous donner des possibilités insoupçonnées, hein, puisque maintenant on a plein de territoires, hein, et c'est là que germe l'idée au moins de réserve ou de travaux forcés, enfin il y a plusieurs idées qui vont converger. et qui donneront la solution finale. Mais j'affirme en toute connaissance des dossiers qu'entre 1933 et 1938, les Juifs auraient pu émigrer. J'en suis une. Hein. Mes parents ont émigré en 1933, d'abord enfin, la nuit, et il se trouve que mon père était un ennemi personnel de Streicher, être Nuremberg, ce qui n'est pas très commode. Moi, à 6 ans, j'ai appris à me jeter par terre quand les salves claquaient dans la rue, parce qu'à Nuremberg, la prise du pouvoir ne s'est pas faite calmement. Moyennant quoi, on a envoyé au camp de concentration de Dachau mon oncle en représailles contre notre départ et pour le faire casquer, et qu'il a envoyé ses Streicher. Et qu'il a fait sortir du camp, c'est vous montrer à quel point la situation était fluctuante. Début 34, Hindenburg, en personne, a signé un décret de sortie pour mon oncle du camp de Dachau, sous prétexte qu'il était porteur de la croix de fer première classe. Ma grand-mère, qui avait à l'époque 80 ans, s'est adressée personnellement à Hindenburg en vertu de ce que Kurt racontait tout à l'heure. Ben, Hindenburg va nous sauver. Et effectivement, mon oncle est sorti. Moyennant quoi, on l'a rattrapé à Gurs pour l'envoyer à Lublin en 1942. L'histoire, hélas, ne se termine pas là. Mais je crois qu'il faut bien montrer les étapes. Je me tue à dire partout où je passe que les solutions étaient possibles. Et que c'est l'ignorance des uns, la mauvaise volonté des États de l'autre, l'exemple de la conférence d'Évian est probant là-dessus, qui nous a conduit à la solution finale. On a parlé de politique raciale, mais le rapport Correr de l'inspecteur SS qui était chargé de dénombrer les Juifs, et qui date de 1942-1943, montre qu'on n'a jamais été fichu de trouver un critère racial, et qu'il reconnaît dans son rapport à Himmler et à Hitler, c'est un rapport confidentiel, Georges Wellers en parle dans ses études, qu'il n'a jamais pu trouver d'autres critères que l'appartenance à la religion juive. Alors ça aussi, on n'a pas encore assez étudié la question, mais la race juive, c'est un mythe. Même pour ceux qui l'ont prôné. Monsieur. J'allais vous dire.
Pardon.
Très rationnel.
Oh là là.
C'était beaucoup trop faible.
Oh là 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 là.
Pouvait pas. Il a d'abord tué ses propres compagnons la nuit des longs couteaux. C'est 34. Je vous ai d'ailleurs dit que Göring, quand on le pressait d'évacuer les Juifs de l'économie, disait « Mais je peux pas, on va crever, on va s'effondrer. Hein? C'est pas possible. »
À ce sujet, je voudrais citer. Quand un certain nombre, surtout de Juifs américains, avaient pris l'initiative en 1933 de vouloir boycotter les marchandises allemandes, tu en as parlé, il y a eu d'énormes pressions de la part du gouvernement allemand, sur les Juifs allemands, pour qu'ils empêchent ces mesures qui portaient atteinte non seulement au commerce allemand, mais à la bonne réputation du Reich, qui en avait beaucoup besoin en ce temps, et qui à ce moment-là ne pouvait pas se permettre de telles choses. Il fallait d'abord que l'Allemagne...
Et également, les Allemands, les nazis ont évité d'installer des camps d'extermination sur le territoire allemand.
Absolument.
Ils ont installé leur domination sur la Pologne.
C'est 39, pas avant que Heydrich dit les conquêtes territoriales vont nous donner d'autres possibilités. Et c'est là qu'on m'a attaqué quand j'ai montré que jusque-là, Buchenwald, Dachau, à un moment donné, le chef du camp de Buchenwald dit aux gens si vous refusez la discipline du camp, vous atterrirez au crématoire. J'ai mis dans le livre une note qui dit il s'agit du crématoire de Weimar, où on conduisait les cadavres des gens battus ou fusillés. Hein? Ce n'est pas un crématoire comme il y en aura à Birkenau, à Auschwitz, à Majdanek. Hein? Vous avez tout à fait raison. Sur le territoire allemand, il n'y en avait pas. Il n'y en a jamais eu.
Là, j'aimerais discuter de la question que vous avez posée dès le départ, en disant qu'il y avait probablement une possibilité entre 34 et 38 à l'hiver.
De droite. J'ai fait une émission avec Alain Decaux, André Castelot et Kiap sur la nuit cristal à la radio. Et le seul qui était bien, c'est Alain Decaux, ça ne vous étonnera pas. Castelot et Kiap passaient leur temps à m'interroger sur l'homosexualité supposée au rêve. Non, je voulais vous répondre simplement que il est significatif. Et là, j'invoquerai aussi le témoignage de mon ami Georges Vellers sur les Juifs en France, parce qu'il faut toujours comparer pour comprendre. Il est significatif que ceux qui sont à l'origine du ghetto de Varsovie, enfin du soulèvement, étaient les éléments les plus jeunes et les plus politisés. J'ajoute tout de suite, les plus politisés, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on ne peut pas dissocier sa culture juive d'une culture politique. Deuxièmement, en France, un exemple plus facile, parce que plus près de nous, Georges Vellers a très bien montré qu'il y a quand même eu une prise de conscience des Juifs. Il l'a fait, par exemple, en scientifique, avec des chiffres. Il montre qu'au départ, quand on a demandé aux Juifs de s'inscrire dans les commissariats de police, pratiquement tout le monde l'a fait. Au deuxième recensement, il en manque déjà 70 à 80 000. Ils ont préféré plonger dans la clandestinité plutôt que de continuer à émerger dans les commissariats. Ils avaient compris quelque chose. Or, ça se situe au moment des premières grandes rafles. Voilà, parce que le judaïsme français était infiniment plus politisé. Oui, mais une minorité qui a fait tache d'huile.
Beaucoup plus importante.
Comme en Allemagne, il y avait cette imprégnation culturelle allemande dont nous vous avons parlé tous les deux, ceux qui sont partis, la fameuse immigration est en grande partie, du moins la première vague, politique.
Je voudrais ajouter, une donnée comparative qui va dans son sens. C'est que en Allemagne, en dehors d'actes individuels magnifiques comme la rose blanche de Munich.
Je pensais à la chapelle en
l'orchestre, qui, ça relevait de quelques consciences, qui était la conscience de l'Allemagne. Il n'y a pas eu de résistance.
Il y a eu un groupe de jeunes juifs communistes à Berlin.
Oui, oui.
Par exemple, on connaît mal encore, hein. Il y a eu quand même quelques cas, mais c'était aussi...
C'était des situations...
Vous avez remarqué que ces éléments fascistes, qui étaient très lucides sur la nature du fascisme, du nazisme, symétriquement étaient d'un aveuglement total vis-à-vis de l'Union soviétique et du stalinisme. Comme si la lucidité complète était impossible, comme s'il fallait avoir un trou aveugle.
C'est très important ce que vous dites là, et ça me permet de comprendre. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Rita, qu'on ne peut pas distinguer entre culture et conscience politique, et qu'une culture qui est privée de conscience politique, c'est-à-dire d'une connaissance du monde réel, c'est le refuge dans ce monde intérieur du quiétisme que tu as si bien décrit, du protestantisme allemand, qui était comme le tombeau précisément de cette culture allemande. Mais inversement, il est vrai aussi qu'une conscience politique qui n'est pas totalement basée, et je m'excuse de le dire, ça fait bâtard en France, mais sur le respect de la personne humaine, qui est la valeur suprême et la seule valeur, eh bien, c'est le totalitarisme, c'est l'idolâtrie.
Si on ne peut pas dissocier culture de conscience politique, le juif qui prétend à la fois récupérer son garder son identité juive et accéder à une culture politique qui défend l'homme, risque lui de se trouver dissocié et dualisé.
Nécessairement, moi je crois pas.
D'accord.
Il y a des valeurs éthiques qui sont communes
pas seulement aux Juifs, je crois.
Et dans la tradition juive même, on est
l'expression... Vous savez, ma mère était une juive pratiquante, ça ne l'a pas empêchée d'être une des organisatrices en France des comités pour l'Espagne républicaine en 1936.
Et je vous dirais...
Contre la guerre et le fascisme.
Et je vous dirais, dans la tradition juive même, il est dit...
Tout à fait dans la tradition juive.
Dans la tradition juive même, il est dit, et c'est le fondement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et... je pense précisément, c'est par quoi j'ai conclu hier soir, que